Aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, lettre sur le yoga, la sixième partie. Et le titre de ces lettres sur le yoga, c'est « Les difficultés sur le chemin ». Notre yoga est certes difficile, mais existe-t-il un yoga vraiment facile ? Vous parlez de l'appât de la libération dans l'absolu extra-cosmique. Mais parmi ceux qui s'embarquent sur le chemin du nirvana, comment l'atteignent durant cette vie-ci ou sans un effort pénible, ardu et prolongé ? Quel est le sentier qui n'oblige pas à traverser le désert aride pour atteindre la terre promise. Même le chemin de la bhakti réputé le plus facile retentit des lamentations des bhaktas qui se plaignent que le bien-aimé échappe à leur étreinte en dépit de leurs appels, que Krishna ne vient pas, même quand le lieu de la rencontre est prêt. Même la joie d'avoir un instant aperçu le bien-aimé ou la passion du Milana est suivie de longues périodes de viraha. C'est une erreur de croire qu'un yoga puisse être facile, qu'il existe une voie royale ou un raccourci pour rejoindre le divin, ou qu'il peut y avoir une méthode de yoga sans peine ou de yoga sans larmes, comme il y a un français sans peine et un français sans larmes. Quelques grandes âmes préparées par leurs vies antérieures ou ayant de quelque autre manière dépassé les capacités spirituelles ordinaires peuvent atteindre plus rapidement la réalisation. Certaines peuvent avoir des débuts dans les débuts des expériences exaltantes. Mais pour le plus grand nombre, l'assidie du chemin, quel qu'il soit, ne peut être que l'aboutissement d'un effort prolongé, ardu et persévérant. On ne peut gagner la couronne de la victoire spirituelle sans la bataille, ni atteindre les hauteurs sans l'ascension et sans labeur. De tous les yogas, on peut dire, difficile est cette route et tranchante comme le fil du rasoir. Vous trouvez le chemin aride précisément parce que vous n'y avez pas encore posé le pied. Mais tous les chemins ont leur période d'aridité, et pour la plupart des sadhaks, sinon pour tous, il en est ainsi au début. Une longue période de préparation est nécessaire pour parvenir à l'étape psychologique intérieure où les portes de l'expérience peuvent s'ouvrir et où l'on peut cheminer en découvrant sans cesse de nouveaux horizons. Bien que même à ce stade, on puisse rencontrer d'autres portes qui refusent de s'ouvrir avant que tout ne soit prêt. Cette période peut être aride et désertique, à moins que l'ardeur à se connaître et à se conquérir soit telle que l'on trouve à chaque pas un intérêt dans l'effort et la lutte. Et à moins que l'on possède ou découvre le secret de chaque, le secret de la confiance et du don de soi, qui voit la main du divin à chaque étape du sentier. Sa grâce et ses conseils sont jusque dans la difficulté. Le yoga est, dit-on, à ses débuts amer comme le poison, à cause des obstacles et des luttes, mais doux comme le nectar à la fin. À cause de la joie de la réalisation, de la paix de la libération et de l'ananda divin, les descriptions que font souvent les sadhaks et les bhaktis de leur période d'aridité sont une preuve suffisante qu'elles ne sont pas spéciales à notre yoga. Toutes les anciennes disciplines l'ont constaté. C'est pourquoi la Gita dit que l'on peut pratiquer le yoga avec patience et régularité et refusant de se laisser abattre par le découragement. Cette recommandation peut s'appliquer à notre sentier, mais aussi à celui de la Gita et au dur fil du rasoir du Vedanta comme à tous les autres. Il est tout naturel que plus l'ananda qui doit descendre est élevé, plus le commencement risque d'être très difficile. Plus les déserts à traverser sur le chemin sont arides. La manifestation supramentale n'apporte certainement pas seulement la paix, la pureté, la force, le pouvoir, la connaissance. Ceci procure les conditions nécessaires à la réalisation finale et en font partie. Mais l'amour, la beauté et l'ananda sont l'essence de son accomplissement. Et bien que l'ananda suprême vienne avec le suprême accomplissement, il n'y a pas de raison que l'on ne trouve pas aussi, chemin faisant, l'amour, l'ananda et la beauté. Certains les ont même rencontrés au premier stade, avant toute autre expérience. Mais le secret s'en trouve dans le cœur et non dans le mental. Dans le cœur qui ouvre ses portes intérieures et laisse apparaître le rayonnement de l'âme resplendissante de confiance et de don de soi. À la chaleur de ce feu intérieur, les débats du mental et ses difficultés se flétrissent et le chemin, si long et si ardu soit-il, devient une route ensoleillée non seulement vers l'amour et l'ananda, mais à travers eux. Même si, néanmoins, cela ne vient pas au début, on peut y parvenir avec une patiente persévérance. La transformation psychique est en vérité le préliminaire indispensable à toute approche du chemin supramental. Et au cœur même de cette transformation se trouve l'épanouissement de l'amour, de la joie et de la bhakti intérieure. Certains commencent par l'ouverture mentale qui peut apporter la paix, la lumière, un premier début de connaissance. Mais cette ouverture par le haut est incomplète si elle n'est pas suivie d'une ouverture du cœur vers l'intérieur. Croire que le yoga est aride et sans joie parce que les conflits de votre mental et de votre vital l'ont rendu aride au premier abord est une incompréhension et une erreur. Les sources cachées de la douceur se révéleront si vous persévérez, même si elles sont pour le moment défendues par les dragons du doute et du désir insatisfait. Grommelez si votre nature vous y contraint, mais persévérez. Le supramental n'est pas, comme vous l'imaginez, froid et dur comme un roc. Il porte en lui la présence de l'amour divin, aussi bien que la vérité divine. Et son règne ici-bas signifie, pour ceux qui l'acceptent, le chemin direct et sans épines, sans murs, sans obstacles, dont les anciens rishis avait vu la lointaine promesse. Le sentier obscur existe et beaucoup, comme par exemple les chrétiens, font de la souffrance spirituelle un évangile. Beaucoup la considèrent comme l'inévitable prix de la victoire. Il peut en être ainsi dans certaines autres circonstances. Mais comme il en fut au début, durant les premières et nombreuses existences, on peut aussi choisir qu'il en soit ainsi. Mais il faut alors en payer le prix par la résignation, la force d'âme ou une résistance tenace. J'admets que les attaques des obscures forces ou les épreuves qu'elles imposent ont un sens si on les endure ainsi. Après chaque victoire emportée sur elles, l'avance est sensible. Souvent, elle semble révéler en nous les obstacles que nous devons surmonter et dire « c'est ici qu'il faut vaincre ». Mais ce chemin est de tout de même par trop sombre et trop difficile et nul ne devrait le suivre à moins d'y être contraint. Nombreux sont ceux qui ont fait le yoga en se reposant sur la tapasya ou autre chose, mais sans être persuadés qu'il existe une grâce divine. Ce n'est pas cette croyance qui est indispensable, c'est l'exigence de l'âme qui aspire à une vérité ou à une vie plus haute. Si l'on a cette exigence, la grâce divine, que l'on y croit ou non, interviendra. Si vous croyez, cela hâte et facilite les choses. Si vous ne pouvez pas encore y croire, l'inspiration de l'âme trouvera sa justification, quelle que soit la difficulté et les luttes. Alors, je continue par quelque chose qui est très court, mais qui est très important aussi. Tout être humain a une double nature s'il n'est pas né Asura, Rakshasa ou Pikshasa. Et même ceux, s'ils sont incarnés, ont un être psychique dissimulé quelque part du fait de leur humanité latente. Mais par être double ou nature double, dans ce sens particulier, on entend ceux dont l'être est nettement divisé en deux parties fortement contrastées et qui sont encore incapables d'exercer sur elles une maîtrise qui les relierait l'une à l'autre. Tantôt, ils sont attirés vers les sommets et alors tout va bien. Tantôt, ils sont attirés par les abîmes et indifférents au sommet, et n'ont même pas pour eux de le sarcasme et les railleries, et lâchent la bride à l'homme inférieur. Ou encore, il subsiste au sommet un volcan qui fume dans l'abîme. Ce sont des exemples extrêmes, mais d'autres, sans aller jusque-là, sont tantôt une chose, tantôt le contraire. S'ils convertissent l'homme inférieur ou découvrent leur être central, un tout harmonieux et vrai et pourra se créer. La difficulté est que dans chaque individu, il y a deux personnes au moins, l'une dans le vital et le physique extérieur, est attaché au moi passé et tente de gagner ou de retenir l'assentiment du mental et de l'être intérieur. L'autre, qui est l'âme, réclame une nouvelle naissance. Ce qui a parlé en vous et a formulé cette prière, c'est votre être psychique qui s'exprimait à l'aide du mental et du vital supérieur. Et c'est cela qui, par vos prières et par votre orientation vers la mer doit toujours se manifester en vous et vous donner l'idée juste et l'impulsion juste. Il est exact que si vous repoussez sans cesse l'action qui vous est suggérée par le vieil Adam, vous aurez fait un grand pas. Le combat se porte alors sur le plan psychologique, où il sera beaucoup plus facile de venir à bout du problème. Je ne nie pas qu'il y aura des difficultés pendant quelque temps, mais si l'action est maîtrisée, la maîtrise de la pensée, des sentiments ne pourra que venir aussi. Si au contraire vous cédez, vous donnez au vieux moi une nouvelle jeunesse. L'être se compose de plusieurs parties. L'une peut être la connaissance et l'autre ne s'en soucie pas ou n'agit pas en conformité avec elle. Il faut unifier l'être, tout l'être tout entier. L'être se compose de plusieurs parties. L'une peut avoir la connaissance alors que l'autre ne s'en soucie pas ou n'agit pas en conformité avec elle. Avec la connaissance. Il faut unifier l'être tout entier dans la lumière pour que toutes ses parties agissent en harmonie et selon la vérité. Tout individu est un amalgame, non de deux, mais de nombreuses personnalités. Dans notre yoga, la perfection yogique consiste, entre autres choses, à les harmoniser, à les transmuer, afin d'intégrer la personnalité. Voilà. Alors, je vais terminer ces chapitres concernant les difficultés du chemin, l'être sur le yoga, sixième partie de Sri Aurobindo. Voilà, alors je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo et de Douce Mère. Merci Sri Aurobindo, merci Douce Mère, Ganga Lakshmi.